Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis très heureux de vous retrouver et je suis aussi très heureux de rencontrer pour la première fois Jean-Christophe Brizard, qui a scénarisé un extraordinaire album publié par les éditions Glénat, La mort d'Hitler. Le premier tome vient de sortir, il y en aura trois. On est là dans la grande histoire, puisque tout ce qui est raconté dans cet album est absolument authentique, mais on est aussi dans un thriller, dans une sorte de polar géopolitique, géostratégique de haute volée. Jean-Christophe, avant de commencer de parler de votre album, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes ?
Eh bien, je suis... ma profession, c'est journaliste. Je suis grand reporter. J'ai travaillé longtemps pour la presse écrite et maintenant, je réalise des documentaires pour la télévision. Et c'est ma première BD comme auteur. J'en rêvais depuis des années. À l'époque où je travaillais pour le National Geographic, j'avais dirigé un numéro spécial, un hors-série sur la BD. J'expliquais à quel point le National Geographic avait inspiré, influencé beaucoup d'auteurs, parce qu'à l'époque c'était le seul moyen de se documenter. Donc c'était vraiment un rêve pour moi.
Hitler est mort, c'est le titre de la bande dessinée. Le premier volume sort, il y en aura je crois trois.
Tout à fait.
Donc, c'est... Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la mort d'Hitler ?
Alors c'est une longue histoire. En fait, j'ai eu l'opportunité d'accéder aux archives russes à Moscou, où restent stockés les restes d'Hitler. Quand j'ai appris ça, j'étais complètement fou, parce que pour moi, il ne restait plus rien du cadavre d'Hitler. Et en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, restait à Moscou la mâchoire d'Hitler et un morceau de crâne. Quand j'ai appris ça, j'ai tout fait pour y accéder. Le seul problème, c'est que... Moscou, ça reste une zone compliquée dès qu'on veut accéder à ses archives, et notamment les dents qui restent dans les archives du FSB, le successeur du KGB. Autant vous dire que ça a été compliqué.
Alors, comment, très très bêtement, comment ça se présente, les dents d'Hitler ? Dans quoi elles sont conservées ? Est-ce que c'est un coffre-fort ? Est-ce que c'est mystérieux,
oui,
ça.
On pourrait croire que c'est effectivement conservé à l'abri, dans une boîte spéciale pour qu'elles soient pas abîmées par le temps. Et en fait, elles sont dans une boîte à cigarillos de l'époque, comme si c'était la boîte dans laquelle elles avaient été mises initialement. C'est toujours la même. Et pour eux, ils m'ont expliqué qu'ils ne voulaient pas les protéger plus parce que c'est quand même les dents de leur ennemi et il est hors de question de les valoriser. Donc elles sont comme ça, mises dans une sorte de coton et disséminées dans cette petite boîte à cigarettes.
Avant de parler de l'album, vous avez donc réalisé un documentaire pour la télévision. Vous êtes allé avec un médecin légiste, anthropologue. Bon, c'est pas le sujet de la bande dessinée, enfin en tout cas pas du premier tome. Mais peux-tu nous raconter juste en quelques mots pour les auditeurs qui n'ont pas vu ce documentaire et qui sont pas forcément férus de ce genre d'actualité ?
Alors, en fait, ce que j'ai voulu faire dans ce documentaire, c'était attester de l'authenticité, de la véracité de ces dents. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui vont vous dire que Hitler n'est pas mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il a pu s'échapper et il est mort octogénaire au Brésil ou je ne sais où en Amérique. Donc il y a encore beaucoup de rumeurs farfelues qui circulent et je ne voulais pas prêter le flanc aux critiques et qu'on me dise que je servais la propagande russe. Donc j'ai voulu faire parler la science, qui est la plus objective. Donc j'ai choisi l'un des plus grands médecins légistes habitué aux enquêtes historiques, c'est Philippe Charlier, qui a été intervenu sur l'authenticité du crâne d'Henri IV. Et j'ai dit aux autorités russes, vous me donnez l'accès aux dents, on peut les analyser, mais avec un légiste français, et vous n'aurez pas accès aux résultats avant publication, pour qu'ils ne puissent pas m'influencer. Et ils ont accepté. Ça a été compliqué, mais ils ont accepté. Et donc, on a été les premiers, depuis le 30 avril 1945, à pouvoir analyser scientifiquement avec des outils ultra modernes l'authenticité de ses dents. Et on a pu dire à la fin, avec certitude, ce sont bien les dents d'Hitler. Et il a bien été, il s'est bien suicidé le 30 avril 1945.
Et quelle preuve vous avez eue, quelle preuve scientifique vous avez pu avoir qui vous ont dit ce sont vraiment les dents d'Hitler ?
Alors, on avait l'avantage de disposer des radiographies de la mâchoire d'Hitler qu'il avait effectuées après la tentative d'attentat de juillet 1944. Et suite à cet attentat, il souffrait énormément de problèmes dentaires. Donc il avait fait ses radios, qui dataient de mémoire, je crois qu'ils dataient de septembre ou d'octobre 1944, que les autorités soviétiques ont pu récupérer à la chute de Berlin, et aussi les Américains qui avaient capturé le dentiste personnel d'Hitler. Donc j'avais deux sources à la fois, la CIA, les services secrets américains, les services secrets russes. J'ai pu récupérer ces radiographies et comparer avec les dents, parce qu'Hitler avait une très mauvaise denture. Il avait des dents dans un état déplorable. Il avait quasiment plus de dents natives. Il avait des bridges très typiques qui avaient été faits spécialement pour lui, qui étaient uniques. Donc c'est là où Philippe Charlier a pu s'assurer de la composition de ces bridges pour être sûr que c'était bien des bridges de cette époque-là et que ça coïncidait parfaitement avec les radios. Ensuite, il est allé avec un microscope à balayage électronique aller vraiment au niveau de la structure même qui permettait de voir Hitler était végétarien. Si on avait trouvé la moindre particule de viande, dans ses dents, dans le tartre, ça voulait dire que c'était pas lui. Et en fait, on n'a rien trouvé. On a trouvé des traces de végétaux. Et on a aussi trouvé des traces des médicaments qu'il prenait. En fait, on avait une dizaine de marqueurs qui nous permettaient de dire c'est lui, c'est bien lui. Il nous restait juste un point sur lequel on n'a pas pu donner de réponse. Par exemple, on a pu voir qu'il n'y avait pas de poudre de canon. Donc il ne s'était pas tiré une balle dans la bouche. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose, on voulait savoir s'il avait pris du cyanure. Parce qu'on a trouvé des petites traces bleu-verdâtre sur ses molaires. Donc, ça pouvait correspondre avec cette capsule de cyanure qu'il aurait pu prendre et craquer avec ses molaires. Mais là, les Russes n'ont pas voulu qu'on fasse de prélèvement, de gratter, parce que ça serait la fin de l'histoire. Donc, en ce moment, je travaille encore à l'arrache-pied avec les autorités pour faire le tome, l'épisode 2 du documentaire.
Enfin bon, on est quasiment sûr, là. Il n'y a pas de doute, en fait.
Ah non, c'est lui. Non, on est sûr. Après, est-ce qu'il s'est tué en prenant du cyanure en plus de la balle dans la tête, parce qu'il s'est tiré une balle dans la tête. En tout cas, ou on lui a tiré une balle dans la tête. Mais on voulait être sûr qu'il avait bien pris.
Donc là, on est carrément à la fin de l'histoire, donc on va parler de Hitler est mort, donc cet album que vous scénarisez, publié par les éditions Glénat. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation au début de l'histoire, parce que donc on est en début mai 1945.
C'est la chute, en fait, on arrive au moment de la chute de Berlin.
Ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est que les Russes entrent dans Berlin. Il n'y a pas encore d'Américains. Ils rentrent tout seuls dans Berlin.
C'est ça. En fait, c'était l'accord entre les Soviétiques et les alliés anglo-américains. C'était, on arrive les premiers, vous nous laissez Berlin. Parce qu'on a tellement souffert, on a tellement payé en nombre d'hommes et en destruction matérielle cette guerre. On veut être les premiers à arriver à Berlin. Donc l'armée rouge arrive. La bataille de Berlin débute en avril. Fin avril, Berlin tombe. Hitler est éterré dans son bunker sous la nouvelle chancellerie du Reich. Quand Berlin tombe, immédiatement, Staline avait donné l'ordre de trouver Hitler. Il fallait absolument trouver Hitler. Il le voulait. Sauf que on est début mai, sauf que le 30 avril, Hitler s'est suicidé et il avait ordonné à ses hommes de détruire son corps et celui d'Eva Braun, qui c'était son épouse, qui s'était suicidée. Sauf que tout se faisait dans la précipitation, les jardins de la chancellerie étaient bombardés, les troupes allemandes qui devaient détruire le corps n'ont pas pris le temps, ils ne disposaient quasiment plus d'essence, ils n'avaient que 200 litres, et on ne peut pas détruire un corps avec seulement 200 litres, parce qu'un corps est composé principalement d'eau, et c'est très difficile de le détruire suffisamment. Ils le brûlent, ils l'enterrent dans les jardins. Et les Soviétiques arrivent. Ils cherchent, et au bout de 3 jours...
Ils savent quand même qu'il est mort, parce que ça a été annoncé à la radio.
Ça a été annoncé, mais comment le croire ? Comment être sûr ? Est-ce que c'est pas une propagande ? Est-ce qu'il s'est pas échappé ? Est-ce que... Parce qu'il pouvait très bien prendre un sous-marin et effectivement partir. Donc ils ne le trouvaient pas. Et Staline avait dit à ses hommes, je veux absolument mon ennemi, je veux que ça soit mon trophée. Et ce qui est amusant, c'est que Hitler, lui, ne voulait surtout pas finir comme un trophée. C'est pour ça qu'il voulait que son corps soit détruit. Il ne voulait pas terminer sur la place rouge pour que tout le monde voit son cadavre. Staline dit à ses troupes d'élite, notamment les services secrets, le NKVD, donc l'ancêtre du KGB, et au contre-espionnage militaire, le SMERSH, qui est une unité secrète, qui est très discrète. SMERSH, c'est un acronyme en russe qui veut dire « mort aux estroyés dans un James Bond ». Mais c'est véridique.
Oui, totalement. Oui.
Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le NKVD et le SMERSH se détestent.
Oui, parce que ça fait partie de la structure du pouvoir totalitaire et soviétique en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des services concurrents, il y a même les gens qui sont à la tête de ces services qui sont concurrents et qui sont littéralement prêts à tout.
Bah oui, parce que Staline a pour habitude de dire, dans les services secrets, soit on progresse en hiérarchie, soit on disparaît. Et là, la question est, lequel de ces deux services va trouver le premier le cadavre et donc supplanter l'autre qui va disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier que, juste avant la guerre, il y a eu toutes ces purges de militaires et d'officiers des services secrets. Donc ils savent que leur vie est potentiellement en danger. Donc il y a cette compétition qui est historique, qui est réelle, pour trouver le cadavre d'Hitler. Et c'est l'histoire de cette...
Ça s'est peut-être passé comme ça, mais vous le racontez comme une... à la fois comme une chasse au trésor, donc il y a un côté un peu rigolo, entre guillemets. Il y a des tas de péripéties, ils trouvent, ils trouvent pas, ils se trompent, enfin, c'est compliqué. Et en même temps, vous racontez ça comme un thriller policier assez haletant, parce qu'il y a une enquête, il faut trouver les restes, il y a des fausses pistes, il y a des rebondissements, et puis il y a cette concurrence qui se passe à la fois à Berlin, mais aussi à Moscou, vous faites sans arrêt des ponts, j'allais dire, entre les deux villes, sachant que la concurrence, elle est très puissante entre les deux, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette compétition, mais à mort, entre les deux chefs de ces deux services, qui sont à Moscou, mais aussi avec les officiers de ces services qui sont à Berlin. Et ils sont prêts à tout pour y arriver. Au pire, ils sont prêts à tuer, à mentir, à dissimuler, à cacher le corps, parce qu'une fois... Le tout, c'est pas de trouver le corps, mais c'est de s'assurer que c'est bien lui, parce que, comme je vous le disais au début, il a été carbonisé, donc assez méconnaissable, encore exploitable par un légiste, mais visuellement, physiquement, on peut pas. C'est difficile de dire c'est Hitler ou c'est un sosie, parce qu'il avait des sosies. Donc, dans cette paranoïa totale de Staline, il peut pas se contenter d'un bête rapport de ses services en disant on l'a trouvé. C'est lui, on le sait, parce que tel témoignage. Non, lui, il veut des preuves avérées, et surtout, il veut le voir. C'est là où ça peut se compliquer, parce que pour aller plus vite, pour doubler son concurrent, est-ce qu'un service ne va pas vouloir aller trop vite et se tromper éventuellement, et après, on rentre dans un jeu de dupe, et c'est là où ça devient un thriller.
Oui, et surtout, les Américains arrivent.
En plus.
Et on peut aussi se dire que les Américains ont eux aussi très envie de récupérer les restes d'Hitler.
Tout à fait. Et puis surtout, il y a, dès la fin de la guerre, des tas de témoignages qui vous disent « Ah, mais je l'ai vu Hitler, il est au nord de l'Allemagne, ah, maintenant, mais je l'ai vu, il est en Italie, ah, maintenant, il est déjà en Amérique latine, il est au Japon. » Et dessus, se greffe le côté diabolique de Staline, qui veut manipuler ses alliés en les épuisant, en leur faisant croire que Hitler est toujours vivant et qu'il faut le chercher. Donc, il se dit comme ça, leurs services vont s'épuiser à le chercher partout. Parce que si Hitler est vivant, la guerre peut éventuellement continuer.
Oui, c'est ce qu'on n'imagine pas, en fait, mais c'est ce qu'on comprend très bien en lisant votre scénario. C'est que si Hitler est vivant, la guerre n'est pas finie. Même s'il y a eu la capitulation de l'Allemagne, il y a une telle ferveur hitlérienne que la guerre peut reprendre, et ça peut continuer avec des groupes, avec des groupuscules, des armées secrètes et des choses comme ça, quoi.
Ben, ils ont, pendant des années, eu peur de cette colonne de SS ou de nazis souterrains qui seraient prêts à reprendre la guerre à un moment ou à un autre. Historiquement, je vais vous donner deux informations qui sont assez folles. Encore aujourd'hui, il n'existe pas de photos officielles des cadavres d'Hitler. Vous avez des photos des cadavres de Goebbels, d'Himmler, de la plupart même de Göring qui s'est suicidé. Tous on les a, pas Hitler. Première information, vraiment c'est fou, on les a pas encore aujourd'hui. Ensuite...
Bah, elles existent peut-être pas, d'ailleurs.
En tout cas, elles n'ont pas été validées. Peut-être qu'elles existent, peut-être que les FSB les a à Moscou, mais on n'a rien. Alors déjà, pas de photos, pas de preuves. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Ensuite, vous avez le fait que l'acte de décès officiel d'Hitler par la justice allemande date de 1950. Sans aucune preuve, à un moment, ils ont dit, bon, bah, à défaut de preuves, on décide qu'il est mort. 1956, 1945. 11 ans après, pendant 11 ans, tous les services secrets des pays occidentaux l'ont cherché partout. Parce que vous aviez des rumeurs. Il y a des rumeurs folles. J'ai retrouvé les documents, ça sera dans les tomes à suivre, où en fait, on a cru vraiment à un moment qu'il était en Argentine. Le FBI, qui l'a cherché, qui a envoyé des tas d'agents pour aller le traquer.
Oui, en plus, on connaît des manchettes de journaux, des unes de magazines.
Il est encore vivant, je le vois. C'est lui,
photos,
regardez.
Des photos plus ou moins ressemblantes.
Il s'est rasé la moustache, ou il s'est laissé pousser la barbe. Donc, tout ça, c'était tellement propice à faire une histoire, la petite histoire dans la grande histoire, et je me suis régalé.
Alors, ce qui est aussi de très chouette dans cet album, c'est que, donc c'est la vérité, l'histoire est vraie, mais il y a plein de personnages historiques. Notamment, il y a cette femme qui appartient au SMERCH, qui mène l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, si vous avez des infos, Elena?
Alors, Elena, c'est une femme qui a vraiment existé, qui est morte quasi centenaire il y a quelques années à Moscou, qui a, après la guerre, est devenue un écrivain. Elle a publié ses mémoires, donc elle raconte. Je me suis servi de beaucoup de ses mémoires pour cet album. C'était une femme d'origine juive. C'est important de le savoir parce que même s'il n'y avait pas de politique antisémite en Union soviétique, les juifs n'étaient pas non plus à la fête. Il faut se souvenir du complot des blouses blanches où Staline pensait que les médecins juifs voulaient le tuer. Et c'est une femme qui était toute jeune, une intellectuelle, qui, dès le début de la guerre, voit son mari s'engager et se faire tuer. Donc elle décide de s'engager aussi parce que énormément de femmes soviétiques se sont engagées dans la guerre. Et elle était d'une famille bourgeoise, elle avait été mal vue pendant la Révolution, son père était un grand banquier, et elle a voulu montrer que c'était une bonne citoyenne soviétique.
Elle parle allemand, je crois aussi.
Et elle a pris des cours en accéléré pour devenir bilingue. Et elle était engagée comme interprète. Mais en étant dans l'unité du SMERCH. Donc elle était interprète allemande, dans la vraie vie, dans la vraie histoire, et elle a été directement impliquée dans l'enquête sur la recherche du cadavre d'Hitler. Dans l'album, c'est dans les premières planches, on voit quelque chose de fou. On voit, en pleine nuit, une unité du SMERCH qui s'introduit clandestinement dans les jardins de la chancellerie du Reich, qui sont protégés par une unité de l'armée rouge. Donc, normalement, ils sont alliés, ils sont ensemble, mais pourtant, ils agissent en clandestinité, et ils vont juste récupérer clandestinement le cadavre qu'ils pensent être d'Hitler, pour ne pas le laisser à ce qu'ils appellent leurs concurrents. Et on parle de l'armée rouge, hein, donc on est entre soviétiques. Donc ils vont le prendre, ça se passe la nuit, et ils passent le cadavre par-dessus le grillage, et ils l'emmènent dans un camion. Et quand j'ai fait le scénario, mon éditeur ici, Adlena, me dit mais c'est pas possible, ils peuvent pas passer le cadavre par-dessus le grillage, ça fait pas sérieux. J'ai dit mais c'est exactement comme ça s'est passé. Elle me témoigne, ça a été corroboré. Ils ont volé le cadavre d'Hitler à leurs propres troupes. Tout ça pour ensuite dire à Staline, regardez, c'est nous qui l'avons, c'est notre unité, donc on doit être récompensé et prendre la place des autres.
Et donc, pour revenir à cette femme, c'est une toute jeune femme en cette époque-là. Et donc, oui. Elle vit dans un milieu
d'hommes
qui ne sont pas des poètes. Hein.
Non, qui ne sont pas des poètes. Mais il y avait un profond respect dans l'armée soviétique pour ces femmes qui étaient engagées. Mmh. Ça, c'est vrai. Elles étaient et elles se comportaient comme des hommes. Hein. C'était à une époque... Et elles étaient costaudes, elles n'hésitaient pas à tuer, il n'y avait aucun souci pour ça.
L'autre chose, c'est que c'est à elle qu'on remet cette fameuse boîte de cigarillos,
ouais.
En lui disant, bah, débrouille-toi, quoi.
Parce qu'elle parle allemand, donc ils ont le cadavre, mais ils n'arrivent pas à l'identifier, l'authentifier à 100%, ils se disent, si on envoie juste le rapport de la découverte du cadavre, ça ne va pas suffire. Donc, il faut authentifier ses dents, tu dois aller trouver le dentiste. On est dans Berlin quasi détruit. Où est ce dentiste? Et le problème, c'est que le dentiste, il s'est échappé avant la chute de Berlin. Donc, elle va se retourner vers l'orthodontiste, vers le technicien et vers l'assistante. Mais il faut aller très très vite. Et c'est elle, et c'est véridique, c'est historique, c'est elle qui se retrouve avec ses dents. Et en plus, elle est juive. Donc, pour elle, c'est très important. C'est un engagement, c'est l'engagement de sa vie. Son mari a été tué par les nazis. Elle est juive, elle sait ce qui est arrivé aux juifs, le génocide juif, parce que l'armée rouge a libéré les camps d'extermination. Donc on est dans ce contexte, et en plus elle déteste, elle a ses ennemis à l'intérieur de l'Union soviétique, c'est le NKVD, donc l'autre service secret, elle c'est le SMERSH, il faut absolument qu'elle gagne.
Oui, c'est ça qui est génial dans cet album, c'est qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire, il y a des courses-poursuites dans les courses-poursuites, enfin voilà, il y a des choses trappes. C'est vraiment un album qu'on lit avec jubilation, quoi. Il y a d'autres personnages historiques qui sont quasiment inconnus, sauf des gens qui s'intéressent à la période. C'est les Allemands qui survivent à tout ça, notamment le pilote d'Hitler, Hans Bohr, son valet, et puis il y en a un troisième qui se retrouve Günsche. Aussi. Voilà, c'est ça.
Otto Günsche, qui était son dernier aide de camp, en fait, c'était son garde du corps. Et en fait, ces trois personnages, donc Hans Bauer, le pilote personnel d'Hitler, Heinz Linge, qui était son valet, et Otto Günsche, sont historiques. J'ai fait une enquête, j'ai retrouvé leurs dossiers dans les archives militaires russes, parce qu'ils ont tous les trois été capturés à la fin de la guerre et envoyés au Goulag. Donc j'ai tous leurs dossiers et j'ai les rapports de leurs interrogatoires. Et c'était fascinant, parce que j'ai tout traduit. C'est des centaines de pages, et je vois leurs témoignages qui évoluent au fur et à mesure qu'ils sont interrogés et torturés. Et c'est vrai qu'il y a un vrai doute. C'est un vrai polar. Je vous donnerai pas la fin de l'histoire, parce que ça sera. Mais ils ont existé, et c'était la clé de voûte de l'enquête des Soviétiques.
Oui, parce que même eux sont pas forcément sûrs de ce qui s'est passé. Enfin, sauf. Le valet d'Hitler, peut-être.
Bah, en fait,
mais le pilote, par exemple, lui, il raconte n'importe quoi.
En plus, en termes de caractère, vous avez. C'est humain, hein, vous avez des mythomanes, des lâches, des courageux. On retrouve tous ces traits de caractère. Donc, il y en a certains qui racontent n'importe quoi en espérant sauver leur peau. Après, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Ils en dénoncent d'autres. Parce que ce qui est fou, c'est que on pourrait croire qu'il y a aussi un soutien entre haut gradés nazis, c'était tous des SS, et qu'ils avaient un sens aigu de la patrie, mais quand il s'agit de sauver sa peau, le premier qui est arrêté, c'est Hans Bauer. Tout de suite, il dit aux Soviétiques, mais si vous voulez la vérité, il faut aller voir Heinz Linge, qui se planque dans tel camp de prisonniers, c'est lui, allez le voir. Donc il le balance. Et ça, c'est, on se retrouve, il y a le côté humain avec ses faiblesses. C'est un petit peu comme une mafia. Et j'ai joué beaucoup là-dessus, ouais. Aussi. On se rend compte chez les Soviétiques. Qui a un petit côté parrain. Comme le parrain, il y a le boss, j'obéis, je travaille pour qui? Je travaille pour le responsable du NKVD, ou je travaille pour Staline, ou je travaille pour l'Union soviétique. Et on a ça aussi du côté nazi, et je trouve qu'ils se ressemblent sur ce point-là, et c'est là où ça fait thriller.
Ouais, tout à fait, surtout il y a. Bon, on le sait, hein, le régime stalinien était quand même un régime de terreur crapuleux, quoi. Mais on voit bien dans cet album le renversement, entre guillemets, des choses. C'est-à-dire que finalement, les Russes vont utiliser les mêmes méthodes que les nazis pour arriver à leur fin. Mmh. Et là, il n'y a pas de pitié. Enfin,
c'est
deux régimes se ressemblent énormément de ce point de vue-là, quoi.
C'est-à-dire qu'on utilise... tous les coups sont permis pour y arriver, vu que votre vie est en jeu. Donc à partir de là, on manipule, on ment, on torture... Et on retourne sa veste si c'est nécessaire. Il n'y a aucune éthique. C'est vraiment juste, il faut survivre, espérer survivre jusqu'à la prochaine purge.
Tout ça dans le chaos de Berlin détruit. Il y a un autre personnage, là aussi, bon, il est connu, mais pas forcément du grand public, c'est Beria, qui a une place très importante dans cet album et qui a une place très importante dans l'histoire de l'Union soviétique et du stalinisme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Parce que c'est vraiment un infâme personnage, quoi.
Alors, Lavrentiy Beria, C'est, alors, ce qui est important, c'est un Géorgien comme Staline. Ils ont ça en commun. La vraie ethnie Beria, Staline l'a présenté aux nazis quand il y a eu l'accord entre le Troisième Reich et l'Union soviétique, le pacte germano-soviétique. Il l'avait présenté à Ribbentrop en disant « c'est mon Himmler ». C'est l'équivalent, c'est la même chose. Donc c'est vraiment le type qui était prêt à tout. C'était le responsable des purges, c'était le responsable des déportations massives qui ont eu lieu avant la guerre ou au milieu de la guerre. Vous avez toutes ces nations du Caucase qui, c'était plus de, je crois que c'était 1 ou 2 millions de personnes qui du jour au lendemain ont été déportées vers la Sibérie ou l'Asie centrale.
Oui, les Tatars. Donc,
c'est ça, les Tatars, les Tchétchènes. Tout cela, c'était Beria. Beria, il était prêt à tout. Il torturait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il aimait torturer lui-même. Il a tué de ses propres mains. C'était un homme à femme, il violait systématiquement. C'était vraiment un type assez spécial, mais très malin. Et historiquement, il a existé aussi. C'était l'homme de main de Staline. Mais Staline, grand paranoïaque, il arrive un moment où il n'aime pas les personnes qui prennent trop de pouvoir, trop de puissance. Donc il a commencé à se méfier de lui. Et c'est là où il a trouvé un type un peu plus jeune qui était le numéro 2 de Beria. Il l'a mis en concurrence avec lui. Donc c'est Abakumov. Il l'a mis à la tête du SMERSH. Et là, c'était une bataille à mort entre ces deux grands prédateurs.
Donc on a parlé de l'histoire, du contexte, des personnages importants de l'histoire. Il faut maintenant parler du dessin. Donc vous n'êtes pas le dessinateur, mais le dessinateur...
Alberto Pagliaro.
Le dessinateur, c'est Alberto Pagliaro. Moi, je ne connaissais pas ce dessin. C'est un dessin absolument époustouflant, extrêmement virtuose. Il y a un travail de la couleur, notamment, que j'ai trouvé assez inédit. On est vraiment plongé dans le chaos de Berlin. Comment s'est passé le travail avec ce dessinateur et comment on travaille comme ça sur cette période pour la rendre le plus, comment dire, véridique possible, mais en même temps sans être totalement documentaire ou sans coller forcément la réalité?
Il y a une base documentaire énorme. Je vais être franc avec vous. Comme j'avais travaillé pour le documentaire télé et pour le livre que j'avais fait, j'avais toute cette base, je lui ai transmis. Il s'en est inspiré, mais il n'a pas été étouffé par cette documentation. Il a réussi à restituer vraiment une ambiance, ce côté étouffant, dangereux. Tout ça, il a vraiment su le faire sans être jamais allé là-bas. Moi, je suis allé à Berlin plusieurs fois, à Moscou. Donc, j'avais tout ça. Je le guidais énormément. Et Alberto, ce que j'adore dans son travail, c'est son côté très stylisé, qui est quasiment unique à lui, quoi. Il s'est approprié cette histoire. Il a bossé comme un fou. Et je trouve que le rendu sur les personnages, sur les visages, sur les angoisses, sur les doutes, tout ça, on le ressent très bien.
Les portraits sont vraiment très beaux, quoi. Et on se rend de la psychologie visuelle, hein.
Oui.
C'est fantastique. Jean-Christophe, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. On ne s'est pas tout dit, mais presque. On s'est dit beaucoup de choses, mais il reste à lire l'album et surtout ensuite à continuer l'histoire avec les deux autres à suivre. Ce premier volume fait 64 pages. Il est vendu au prix de 14,95 € et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et je vous dis à bientôt. Plaisir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Wow.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.